l'organisation de l'église à Moiron, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est à côté de Grenoble. Hein? Voilà, je remercie encore Hubert pour cette invitation pour annoncer l'évangile. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de quelque chose qui est merveilleux. Hein? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais, bon, ça fait un petit temps que je ne suis pas revenu par ici, donc je vois qu'il y a beaucoup de jeunesse au milieu de vous. Hein? Je me réjouis. Et je voudrais encourager ces personnes, ces frères et sœurs qui nous ont conduits dans le chant, dans la louange. Hein? Et je voudrais vous encourager réellement à poursuivre, à persévérer dans le service pour Dieu. Et je voudrais aussi inviter tout le monde à persévérer pour le service pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Alors, oh, merci, c'est gentil. À votre santé. Voilà, Josué Pena, c'est moi. Marié, 3 enfants, 57 ans, 1m72 et 1 kg. Voilà, comme ça au moins vous savez à qui vous avez affaire. Hein? Je suis pasteur. Je travaille au sein d'une équipe apostolique sur Grenoble, dans le ministère, et j'aime annoncer l'évangile.
Amen.
Pourquoi, vous allez le comprendre très vite, parce que l'évangile a transformé ma vie.
Hein?
Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui se veut être loin de l'évangile. Hein? Quand on parle de l'évangile dans la rue, ou quand on va dans les lieux de travail, ou dans la famille, et qu'on commence à parler de Jésus, qui commence à parler de l'évangile, on se rend compte que beaucoup de personnes sont, j'allais dire, très... Oh. Tu peux parler de tout ce que tu veux, même, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, mais tu peux parler du cosmique, du intergalactique, tu peux parler de la vie qui se passe à la troisième dimension, à la 25e structure, tu peux parler de n'importe quoi, tu vois toujours des personnes qui disent « Ah ouais, ah oui !» Quand tu commences à parler de Jésus... Tu t'aperçois que, ah, là, ça coince. Je vais aller même plus loin. Hein. Tu peux même parler du diable et des démons. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir tous les jeux, vidéos, machin, bidule, qui parlent de ça. Pas de problème. Hein. Mais quand tu commences à parler de Jésus, ouf. Je me rappelle un témoignage en introduction, avant d'aller plus loin, pour vous montrer dans quel monde nous vivons. Hein. Je me rappelle un témoignage d'une jeune fille qui était venue se faire baptiser au CEP à Borette, à ce moment-là l'église était à Borette, une jeune fille qui était handicapée, elle avait des problèmes moteurs, et elle fréquentait une maison pour les personnes handicapées, hein, APF. Hein. Et cette jeune fille était venue me voir en me disant, écoute, Josué, je vais te voir parce que j'ai un souci. Moi, je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai commencé à parler de Jésus là-bas, et on m'a mis en garde en me disant, faut pas que tu parles de Jésus. Il ne faut pas que tu parles de ta religion, il ne faut pas que tu parles de la foi, il ne faut pas que tu parles de Dieu. C'est interdit ici dans ce lieu-là. Ah bon, elle a dit, mais je dis que de bonnes choses. Mais non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Et elle est venue me voir parce que c'était la période de Halloween qui arrivait. Vous connaissez Halloween?
Oui.
Ouais. Et quand ils ont mis Halloween dans le grand réfectoire, dans le lieu où il ne fallait pas parler de Jésus, où il ne faut pas parler de Dieu, où il ne faut pas parler de religion, où il ne faut pas parler de foi, dans ce grand réfectoire, ils avaient mis des sorcières, ils avaient mis des cadavres, ils avaient mis des ossements, ils avaient mis des choses horribles. Et on parlait du diable, et on parlait de Halloween, de les esprits des morts qui reviennent. Et elle disait, mais je ne comprends plus, Josué. J'ai pas le droit de parler de Dieu, mais eux parlent du diable. Il y a un non-sens. Il y a un non-sens. Et quand j'étais voir la responsable, parce que j'étais voir la responsable, je dis, non, monsieur, ici, on ne parle pas de religion. Mais moi, ce matin, je ne veux pas vous parler de religion. Ce matin, je ne veux pas vous parler de religion. Je veux vous parler de Jésus.
Amen.
C'est une grande différence. C'est une grande différence. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, bien que ce monde se veut être loin de Dieu, pourtant, il y a des dictons, il y a des allusions qui sont tellement claires. Tenez, par exemple, je vais en donner quelques-uns. Hein? Quand, par exemple, qui sont tirés de la Bible. Hein? Même quand vous allumez les informations... Des fois, vous entendez des choses comme ça. Par exemple, si je vous dis, par exemple, être en tenue d'Adam et d'Ève. Hein? Être en tenue d'Adam et Ève. Il y avait des hommes et des femmes qui sont sur la plage en tenue d'Adam et Ève. Ça veut dire en dévêtu. Hein? Mais c'est une expression biblique. Être en tenue d'Adam et Ève, c'est biblique. Hein? Non? Quand on dit, par exemple, on parle du fruit défendu. Vous avez déjà entendu des gens vous parler du fruit défendu? Ça vient d'où ça? Quand on dit, par exemple, le jardin d'Éden, hein, on parle d'un moment, tu vois, on arrive, on voit un paysage, waouh, ça ressemble au jardin d'Éden. Ça vient d'où ça? Ça vient de la Bible. Hein? Quand, par exemple, on parle des... Vous avez déjà entendu déjà cette expression qui dit la période de vaches maigres. Hein? C'est tiré d'où ça? Hein? Oui, mais vous. Oui. Hein? C'est Joseph qui interprète le songe de Pharaon. Pharaon voit dans un songe cette vache grasse qui sort de la mer. Et après, il voit arriver cette vache maigre qui mange les grasses et elles sont toujours maigres. Hein? C'est étonnant comme rêve. Hein? Mais c'était que Dieu voulait parler à Pharaon qu'il allait avoir cette année d'abondance, mais après cette année de famine terrible. Les vaches maigres. Hein? Les vaches maigres. C'est des expressions qu'on rencontre dans le monde. Hein? Hein? Qu'on écoute des fois même dans le journal télévisé. Hein? Hein? Et pourtant, c'est tiré de la Bible. Quand je vous parle, si je vous parle par exemple du colosse au pied d'argile. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Le colosse au pied d'argile. Hein? C'est quelqu'un qui paraît être fort, mais en réalité est fragile. C'est d'où ça?
Daniel.
Oui, en fait, Daniel. Hein, vous savez cette image que Nebuchadnezzar reçoit de cette statue forte, et à un moment donné, une petite pierre vient et tape les pieds. Et tout s'écroule. Hein? Colosse au pied d'argile. On a une expression. Hein? Tenez, l'expression, vous connaissez l'expression le pot de terre contre le pot de fer? Vous avez déjà entendu ça? Il y a même une fable qui a été faite par Jean La Fontaine. Hein? Pot de fer contre pot de terre. C'est tiré du livre d'Ecclésiaste. Hein? Le livre d'Ecclésiaste nous parle de ce pot de terre et de ce pot de fer. Qui ne connaît pas œil pour œil, dent pour dent? C'est tiré d'où ça? Ça vient d'où ça? La philosophie de Platon? Ça vient d'où? Œil pour œil, dent pour dent. Ça vient de la Bible? Ça vient de la Bible. Hein? Qui n'a pas entendu parler du jugement de Salomon? Vous connaissez ça? Cette expression, le jugement de Salomon? Hein? Mais c'est toute cette histoire. Hein? Ces deux femmes qui perdent leur bébé. Hein? Et à un moment donné, il y en a un qui meurt, mais l'autre est vivant. Et Salomon, lui dit c'est le mien, l'autre dit non, c'est le mien. Et Salomon dit ok, d'accord, amenez-moi le bébé. Et il va prendre une épée, on va le couper en deux. Jugement de Salomon. Hein? Et la mère qui appartient au bébé dit non, ne le tue pas. Donne-lui, ne le tue pas. Le jugement de Salomon. Hein? Encore une allusion à la Bible. Dans ce monde séculier, dans ce monde qui refuse la Bible, dans ce monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu, il est truffé d'allusion à Dieu. Hein? Comme par exemple, qui a entendu déjà parler de pauvre comme Job? Hein? Une allusion contre pauvre comme. Il est né nu, il repartira nu. Pauvre comme Job. Hein? Et que dire encore du plat de lentilles? Hein? La tour de Babel. Les 10 plaies d'Égypte. Hein? La traversée du désert. Oh, monsieur et madame, ouais, c'est le monsieur un tel de politique fait sa traversée du désert. Mais j'ai tiré d'où ça? La traversée du désert du peuple d'Israël. Hein? Hein? La terre promise. Enfin, nous arrivons dans la terre promise. On trouve beaucoup d'allusions comme ça, qui sont des dictons qui sont tirés de la Bible. Hein? Et après, quand on prend par exemple dans le Nouveau Testament, là je ne vous fais que citer l'Ancien Testament, mais si nous prenons le Nouveau Testament, pas des rétros. Hein? Ah oui, c'est une expression qu'on dit souvent, même les jeunes aujourd'hui le disent en rigolant, va des rétros. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'Évangile, lorsque Jésus dit à Pierre, va, retire-toi de moi, va des rétros. Hein? Et que penser par exemple de tendre l'autre joue? Tendre l'autre joue, ça vient d'où ça? Hein? Rendre à César ce qui est à César. Jeter la pierre. Chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ou encore, nul n'est prophète dans son pays. On attend ça à longueur de journée dans la bouche des personnes qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas de la Bible. Or, tout ça, c'est tiré de la Bible. Tout ça, c'est tiré de la Bible. Qui ne connaît pas le bon samaritain? Hein? Parabole de Jésus. Qui ne connaît pas la brebis égarée? Et bien souvent, des fois, quand on voit des retours en politique ou en économie ou je ne sais pas où, hein, le retour du fils prodigue. Hein? Le retour du fils prodigue. Il revient comme le fils prodigue. Mais c'est tiré d'où tout ça? Les évangiles. Les évangiles. Les évangiles. Le veau gras. Séparer le bon grain de l'ivraie. Hein? Ne pas être très à table. Hein? Pourquoi ça? Ça vient d'où ça? Ne pas être très à table. Ça vient de la Sainte-Seine. Jésus était avec ses 12 disciples, ça vient de la trahison de Judas. Mais vous, il y a des choses qui sont tirées de la Bible, qui sont rentrées dans le parler quotidien du monde. C'est même le monde qui refuse de Jésus. Hein? Et oui, il y a de l'incohérence qui existe là-dedans. Hein? Pleurer comme une madeleine. Vous avez jamais entendu ça? Cette expression? Qui a déjà entendu ça? Hein? Oh, tu pleures comme une madeleine. Mais ça vient d'où ça? Ça vient de Marie-Madeleine qui pleure devant le tombeau vide. Et Jésus lui apparaît, dit Marie, et maître, Rabouni, hein, pleurer comme Marie-Madeleine. Pleurer. Et même trouver son chemin de Damas. Hein? C'est-à-dire avoir une révélation dans ta vie, tu trouves sur le chemin de Damas, et tu as une révélation. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui reçoit ça. Hein? Frères et sœurs, nous voyons comme nous sommes pétris par la parole de Dieu. Hein? Et même dans la musique aussi. Hein? Le gospel. C'est quoi le gospel? Hein? Le gospel. Le mot gospel veut dire évangile. Gospel. C'est-à-dire Dieu qui parle, Dieu qui chante, l'évangile chanté, la bonne nouvelle. Hein? Qui connaît ici Oh Happy Day? Ouais, j'ai fait exprès, hein, pour assurer, parce que je sais que vous êtes très branchés gospel. Hein. Mais Oh Happy Day, des fois on entend ça, même dans la télévision, dans les émissions variétés, et tout le monde, Oh Happy Day, tout le monde chante Oh Happy Day, tout le monde est content, sans savoir des fois ce que ça veut dire. Vous connaissez la traduction du chant Oh Happy Day, hein? Oh Happy Day, quel jour heureux. When Jesus washed, quand Jésus m'a lavé. Quand Jésus m'a lavé. Oh, quel jour heureux quand il m'a lavé de tous mes péchés. Il me donne la force pour combattre dans la prière. Oh, Happy Day, quel jour heureux. Hein? Et je vous passe sur Amazon Grace. Hein? Il m'a ouvert les yeux, j'étais aveugle. Et il m'a ouvert mes yeux pour que je voie sa grâce. Frères et sœurs, nous sommes entourés, pétris par la parole de Dieu.
Amen.
Alors, je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Je ne sais pas. Hein? Mais je sais qu'il y a des personnes qui connaissent Jésus. Hein? Si nous voulons comprendre l'Évangile, il faut venir entendre celui qui a partagé l'Évangile en premier. Qui est celui qui a partagé l'Évangile en premier? C'est Jésus. C'est Jésus. Hein? Moi, je dis souvent, quand tu veux connaître les choses, hein, viens pas au fruit, par la racine.
Amen.
Alors, si tu veux comprendre quelque chose de l'Évangile, viens à la racine. Viens écouter ce que Jésus a dit. Et ce que Jésus a dit, nous le trouvons dans les évangiles. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, il y a une déclaration de Jésus lui-même qui va dire ce que c'est que l'évangile. Hein? Vous savez, une fois, frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons bâtit des philosophies, ou bâtit des doctrines en écoutant les gens. Par exemple, je ne veux pas faire de politique, hein, rassurez-vous, hein, mais si vous parlez du gaullisme, c'est parce qu'il s'appuie sur les dires de De Gaulle.
De Gaulle, oui.
Hein? Ok? D'accord? Voilà. Et donc, il est important, quelque part, de revenir aux sources. Qu'est-ce que Jésus dit sur l'Évangile? Comment Jésus a présenté l'Évangile? Et nous trouvons dans l'Évangile de Luc, un passage, au chapitre 4, il est écrit ceci, à partir du verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'entour. Il enseignait dans les synagogues, et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Écoutez bien, ça c'est l'évangile maintenant. Ce que nous allons lire maintenant, ce que vous allez entendre maintenant, c'est la racine de l'évangile, la teneur de l'évangile, le pourquoi de l'évangile. Et Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que, conséquence, le pourquoi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Frères et sœurs, ici, Jésus, excusez-moi de le dire comme ça, Jésus donne le cahier des charges. Jésus donne le mandat de l'Évangile. Il dit clairement, voilà ce que c'est que l'Évangile. Premièrement, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle aux pauvres.
Amen.
Alors on me dirait, oui, mais ça veut dire quoi les pauvres? Est-ce que ça veut dire le pauvre au niveau financier? Vous savez, frères et sœurs, les finances sont des très bons serviteurs. L'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Le problème de l'argent, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce que tu es esclave de ça? Et il y a des gens qui sont très, 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 très riches, mais qui sont très, 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 très esclaves. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout riches, mais qui sont libres. Ça paraît une folie. Mais parce que les véritables richesses, ce n'est pas le dollar et l'euro. Les véritables richesses, c'est l'amour, c'est la paix et c'est la joie.
Amen.
Vous êtes d'accord avec ça?
Amen.
Moi, je ne sais pas ici dans la salle. Hein, vous dites tranquillement. Hein. Moi, je vous souhaite d'avoir une super villa avec 25 pièces, avec une piscine. Allez, petite cerise sur le gâteau avec un terrain de tennis. Et si vous voulez, je vous offre aussi le terrain de golf. Vous pouvez avoir tout ça. Il y en a comme ça. Hein. Oui, mais l'amour d'un foyer. L'amour d'un foyer, l'amour d'une femme, l'amour d'un mari, l'amour des enfants, l'amour d'une famille unie. Ça vaut combien ça? Je te souhaite, mon frère, ma soeur, mon ami, d'avoir un lit avec des draps en soie, hein, avec de la palme de cale, je ne sais pas comment ça s'appelle, Louis XIV, machin début. Hein. Je te souhaite ça, je te souhaite vraiment une chambre, waouh! Ok, mais le sommeil,
amen.
Ça vaut combien ça? Il y a des gens qui ont des richesses comme ça, mais qui n'ont pas la véritable richesse. Parce que la véritable richesse, mon ami, c'est l'amour, la paix et la joie.
Amen.
Le seul qui peut donner ça, qui peut mettre ça dans ton cœur, il s'appelle Jésus.
Amen. Amen.
Amen. Voilà, tu vas dans la pharmacie, tu dis bonjour madame, bonjour monsieur, donnez-moi s'il vous plaît un tube de paix. Ah, ce que je peux vous donner, c'est des balmuturiques pour que tu puisses dormir, pour que tu puisses être seul. Mais la paix vient de Jésus, la communion avec lui. Frères et sœurs, vous connaissez tous, c'est ma génération. Hein. C'est ma génération. Je sais qu'il y a des jeunes ici, hein. Je ne sais pas si ça va vous parler aux jeunes. Hein. Je vois qu'il y a des moins jeunes. Donc. Qui connaît ici Marilyn Monroe? Vous m'avez entendu parler de Marilyn Monroe, hein? Ok, idole de la jeunesse, de ma jeunesse. Bon, bref. Milliardaire, une grande actrice, adulée, adorée par certains. Et un beau matin, on l'a retrouvée dans son lit, morte. Elle avait avalé 3 tubes de barbiturique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vide dans son cœur, que l'argent n'a jamais pu combler, que la gloire humaine n'a pas comblé, que le cinéma. Les clap, les oulala n'ont pas comblé. Parce que sans son cœur, il y avait un vide. Et ça n'avait à vous. Qui connaît ici Mike Brandt? Ah, je vois qu'il y a déjà. Hein. Il s'appelait l'homme à la voix d'or. Il a vendu des millions de disques, platine, machin, bidule. Et un jour, du 13e étage à Paris, il a ouvert sa fenêtre et il s'est jeté. Parce qu'il disait qu'il il était seul, que personne ne l'aimait. Qui connaît les Beatles ici? Hein? Je dirais, mais José, tu parles de quoi? Non, je vais vous montrer qu'en réalité, dans le fond du cœur de l'homme, il y a la recherche de la véritable richesse, la recherche du véritable amour, la recherche d'un véritable paix,
amen,
la recherche
d'un
véritable. Les Beatles ont écrit un chant qui a fait le tour du monde, qui est devenu un succès mondial, c'est All I Need Is Love. Tout ce dont j'ai besoin, c'est l'amour. C'est l'amour. Frères et sœurs, là, c'est les véritables richesses. Et Jésus est venu pour donner ça. Jésus est venu donner ses richesses aux pauvres, à ceux qui ont besoin d'amour, à ceux qui ont besoin de paix, à ceux qui ont besoin de joie,
amen.
À ceux qui ont besoin d'espoir,
amen.
À ceux qui ont besoin de vie.
Amen.
Jésus est venu donner ça. Jésus est venu, c'est ça. Est-ce qu'il y a des pauvres comme ça ici au milieu de nous ce matin? Je peux te dire que si tu es ce matin ici, si vous êtes ici ce matin avec ce désir dans votre cœur, ce besoin dans votre cœur de vie, de vérité, d'amour et de paix, je peux te dire que si ton cœur est ouvert,
allez,
tu vas être rempli.
Amen.
Dieu va remplir ton cœur. Dieu va remplir
amen.
Ton cœur. Parce que amen. Jésus est là au milieu de nous.
Amen.
Jésus est là. Frère et sœur, c'est ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ce qu'il a fait dans beaucoup de vies. Il est venu changer les vies. Il est venu changer les vies.
Amen.
Il est venu transformer les vies.
Amen.
Je vais vous dire une chose, frère et sœur. Je vais vous parler ce matin de ce que Dieu a fait dans ma famille. Vous savez, quand on parle, on partage l'évangile, ce n'est pas simplement des mots, c'est des réalités. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas honte de parler de Jésus.
Amen.
Parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie.
Amen.
Moi qui vous parle, j'ai donc 57 ans, je suis pasteur, je suis dans le ministère depuis à peu près 20 ans, ça fait 30 ans que je suis converti. Je n'ai pas toujours cru en Dieu. Quand j'étais jeune, je suis toujours jeune.
Amen.
Et quand j'étais jeune aussi dans mon corps, hein, j'étais
Amen.
Quelqu'un qui a cherché la vraie vie, la vérité avec un grand V, l'amour avec un grand A. Et un jour, un ami m'a dit, toi, ton problème, c'est que tu cherches trop les lettres en majuscules. Ça n'existe pas l'amour avec un grand A, et la vie avec un grand V, et la vérité avec un grand V. Ça n'existe pas. Je me suis dit, bon, ok, je m'en fais une... Mais j'ai cherché, j'ai frappé à beaucoup de portes. Quand j'ai eu 18 ans, j'avais un travail. Je suis grandi dans une famille qui était une famille espagnole d'immigrés. J'étais aimé par mon père et ma mère, mais il y avait au fond de moi un vide, un très grand vide. Et j'ai cherché, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon salaire, j'ai cherché à remplir ce vide. Et j'ai cherché à le remplir au travers de l'amitié. Mais moi, je croyais à l'amitié avec un grand A. Mais je me suis aperçu bien sûr. Très vite que l'amitié avec un grand A, ça n'existe pas. Tu as, ils sont là. Tu as plus, ils sont plus là.
Eh oui,
ça c'est l'amitié avec un tout petit A. Hein? Et très vite, l'amitié est entrée dans mon cœur. Mais j'avais un besoin. Très vite, l'alcool est entré dans mon cœur, dans ma vie. Mais j'avais encore besoin de plus. Très vite, la drogue est entrée dans ma vie. Et j'ai commencé à toucher à des choses comme ça qui, je pensais, allaient m'amener la liberté. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'étais devenu esclave. Très vite, je me suis rendu compte que les bières du midi ne suffisaient pas. Il me fallait les bières du soir. Et très vite, j'ai compris que les bières du midi et les bières du soir ne suffisaient pas. J'avais besoin d'un plus encore. Et très vite, j'ai compris que j'avais encore besoin de plus. Et très vite, j'ai compris que le petit joint que je me prenais de temps en temps ne suffisait pas. Et très vite, j'ai commencé à aller plus loin. Et le cannabis a disparu de ma vie. Le LSD est arrivé. Et la cocaïne et l'héroïne. Mes frères et sœurs, là, vous voyez, je suis bien portant. Hein, je m'aurais connu quand j'avais 20 ans. Vous aurez changé de trop de frappe. Je pesais 44 kilos. J'avais les cheveux jusqu'ici. J'étais un mort vivant. Et je vous le dis, pour vous montrer comment Dieu est bon. Et je suis parti très vite, je suis parti de Grenoble, parce que ça ne suffisait pas. Et j'étais en Espagne. Et là, quand j'étais en Espagne, je voulais retrouver mes racines. Je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes hommes qui vivaient sans foi ni loi. Leur boulot, c'était, on faisait des allers-retours entre Cordoba et Catama. Je ne sais pas si c'est enregistré, mais je m'en fiche, je vous donne pour comprendre. Catama, c'est au Maroc. C'est dans les montagnes du Maroc. Là où il y a les paysans qui produisent du hashish. Et mon travail consistait à un commerce import-export. J'allais chercher là-bas et je revendais ici. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, frères et sœurs.
Ouais.
Avec un vide dans mon cœur. Et plus je croyais que je montais, plus je descendais. Jusqu'à un jour, en revenant du Maroc, avec mes amis, on était 5 dans une voiture, une Ford Fiesta. Dans une grande ligne droite. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent l'Espagne ici.
Oui.
L'Espagne, des fois, il y a des grandes lignes droites où il y a des oliviers à droite, des oliviers à gauche, des oliviers en haut, des oliviers en bas, il n'y a que ça. Et là, il n'y avait personne dans une grande ligne droite. On roulait à plus de 130 à l'heure. Et au fond de la ligne droite, il y a eu un dodane. La voiture a décollé du dodane et on est allé se planter sur un camion. La voiture a percuté un camion, elle a fait 3-4 tonneaux, on est sorti tous indemnes. Et là, je suis sorti avec... Bon, j'avais tous les bras qui étaient ensanglantés parce que j'avais pris le pare-brise. Et je suis sorti, je me suis assis au bord de la route, je dis, waouh. Là, tout à coup, comme si quelque chose me tombait des écailles des yeux, waouh, j'ai 22 ans et j'aurais pu mourir. Et après, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il y a quelque chose au fond de moi, je ne dis pas que j'ai entendu une voix comme Jeanne d'Arc, hein. Le chat ne m'a rien fait, hein. Mais au fond de moi, j'ai entendu comme une petite voix. Vous la connaissez, nous la connaissons, cette voix-là. La voix de notre conscience. Hein. Et Dieu parle au travers de la conscience. Et si tu es là ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur, ne crois surtout pas, et je veux que tu regardes dans mes yeux, ne crois surtout pas que c'est le fruit du hasard. Parce que ce jour-là, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une petite voix au fond de moi m'a dit, Dieu existe.
Amen.
J'existe.
Amen.
Et je t'aime.
Amen.
Ça a été pour moi quelque chose de wow. Je me suis levé de là, je me suis dit, ah bon. Et j'ai vu mon ami Manolo, qui était au volant, qui lui avait ramassé le volant sur la tête, il avait une poste comme ça, il était devenu amnésique. Et puis par la main, j'ai dit, Manolo, t'es là, oh, où est-ce qu'on est. Il ne savait plus où il était. Une voiture s'arrête. Je viens, parce que je parle espagnol, donc je vois la place. Et on vient d'avoir un accident. Est-ce que vous pouvez nous amener dans une ville pour un hôpital ou... Elle dit, ah, vous avez de la chance, hein, monsieur. Je dis, bon, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un petit village à côté, et là, il y a un hôpital tenu par des sœurs religieuses. Je vous y emmène tout de suite. Et me voici dans cet hôpital avec tenu par des sœurs religieuses. Et j'arrive là-bas et je lui dis, on a eu un accident, mon collègue, toujours dans les vapes, vous savez pas où il était. Hein. Et la sœur religieuse me dit, attendez parce que le médecin est en train d'opérer, on vous prend tout de suite après. Mais attendez là dans la salle d'attente. Et je vous renvoie encore, frère et sœur, dans cette salle d'attente, avec, en tenant Manolo par la main, hein, pour pas qu'il s'en aille parce qu'il est dans les vapes. Et je me baladais comme ça dans les couvents et je voyais des peintures, enfin c'est pas des photos comme ça, mais c'était des peintures qui montraient le déluge, qui montraient la mer Rouge qui s'ouvrait avec les Israël qui passait au milieu, des versets bibliques. Et là je lisais ça et quand je voyais ça, j'avais l'impression que ça me rentrait dedans. Ça me parlait de Dieu. Et Dieu me disait, vas-y, bois, lis. Et je lisais ça, je dis, mais Dieu existe. Je suis sorti de cet hôpital, frère et soeur, je n'étais plus le même homme.
Amen.
Je n'ai pas dit que j'étais sauvé, mais j'étais plus le même homme. Là, je viens de prendre conscience d'une chose.
Amen.
C'est que Dieu existait.
Amen.
Que Dieu existait. Amen. Et si Dieu existe, je me suis dit, il faut que je le rencontre.
Amen.
Dire, ah, ça y est, le coup sur la tête, ça m'a fait mal. Hein? Bon, je passe, vite fait, je me retrouve au Portugal, chez des amis, et je dis, il faut que je rencontre Dieu. Je leur parle comme ça. Hein? Il faut que... Il me dit, t'es fou, laisse tomber Dieu, tout ça, c'est de la bêtise. Moi je dis, non, au fond de mon cœur, je sais que c'est vrai. Il faut que je rencontre Dieu. Je vais rentrer chez moi à Grenoble. Et je suis rentré chez moi à Grenoble, et j'ai été frappé à la porte de ma maison. Mon père et ma mère m'ont ouvert. Vous savez, frères et sœurs, j'en parlais tout à l'heure de mon père et ma mère. Ce que Dieu fait dans une famille est vraiment merveilleux. C'est mon père et ma mère, combien de fois, frères et sœurs, combien de fois ils m'ont retrouvé à 2h, 3h du matin, à la porte de la maison, comme une loque humaine. Jeté là, comme ça, comme une loque, par mes amis. On allait faire une grosse fête, une grosse teuf. Hein? Et j'étais tellement teufé que je n'avais plus de goût. Hein? Et combien de fois mon père et ma mère m'ont ramassé là et m'ont emmené dans les WC. Combien de fois? Et quand mon père et ma mère ont ouvert la porte et m'ont vu, la première chose que j'ai faite, parce que j'avais l'amour de Dieu qui commençait dans mon cœur, je dis, papa, maman, pardon.
Amen.
Amen. Je reviens. Amen. Je reviens, pardon. Je me suis dit, là, tout peut se passer. Soit il me ferme la porte, soit il me dit, cache-toi. Je me dis, va-t'en. Mon père et ma mère m'ont pris dans les bras. On dit, rentre à la maison.
Amen.
Rentre à la maison. Amen. Rentre à la maison. Amen. Et là, j'ai commencé à reprendre vie.
Amen.
J'ai commencé à reprendre vie. Je me suis dit, mince, il y a autre chose qui existe maintenant.
Amen.
Et mon frère cadet qui était là, Georges. Qui lui, il n'a pas touché de drogue. Ne boit pas, ne buvait pas, ne se droguait pas. C'était le petit jeune homme clean, beau, intelligent. Hein, voilà, le gendre parfait. Hein. Et en plus, il était sportif. Il était champion de France militaire de cross-country. Ça vous parle, ça? Le gars, il se levait le matin, il faisait l'entraînement, midi entraînement, soir entraînement. Hein. Et je parlais avec lui, je dis, écoute, Georges, ça va paraître bizarre ce que je vais te dire, mais je crois que Dieu existe. Il me regarde, ouais. Ah ben, j'ai dit toi, non. Ouais, c'est pas grave. Genre, oui. Et il me dit, ah bon? Tu crois en Dieu? Moi, je dis, je sais pas si je crois en Dieu, mais je le cherche. Il me dit, ben, ça tombe bien, moi aussi.
Ah
bon? Tu cherches Dieu, toi aussi? Mais ouais. Et on commençait à discuter sur Dieu pendant des heures et des heures, des soirées. Et un jour, il part à l'armée, parce qu'il était dans la militaire, à ce moment-là. Et à l'armée, il avait une permission de 48 heures. Il dit, c'est trop court pour rentrer, je vais rester. Alors il m'appelle au téléphone, il me dit, écoute, Jess, je vais rester, je ne vais pas venir pendant le week-end. Mais ça fait rien, on se voit, ok. Et il reste à l'armée. Là-bas, c'était vers le bataillon de Joinville, pour ceux qui connaissent. C'est le bataillon sportif des athlètes français. Et là, il sort du bataillon, il va dans une petite ville qui s'appelle Chaumont, et il voit un chapiteau. Il entend de la musique, un peu comme celle-ci. hein, avec un gros panneau, hein, vient et voit. Et il s'approche de ça, il regarde, puis il voit des gens qui chantaient des Alléluia, des gens qui tapaient des mains, hein, puis il dit, waouh. Et à un moment donné, il y a le prédicateur qui était là, c'était un gitan. Il disait, si tu veux chercher Jésus, si tu veux le trouver, rentre sous la tente. Viens et ouvre ton cœur, et tu vas voir, ça va changer ta vie. Amen. Et mon frère Jean dit, bah, allez, j'y vais. Il est rentré. Amen. Et il a écouté l'évangile. Il a écouté le message d'amour de Jésus. Amen. Il a écouté pourquoi Jésus est venu sur terre.
Amen.
Pour nous sauver, pour prendre nos péchés, ses péchés sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Et quand il a terminé d'écouter ça, et tout à l'heure, on fera comme ça aussi, je le crois, il y a eu un appel qui a été fait. Et lui a dit, moi, il a levé la main, il a dit, moi, je veux recevoir Jésus.
Amen.
Et ça a été péché. La permission suivante, il est venu à la maison, il avait un sourire jusqu'ici. Et il me voit, il dit, Jess, moi, je dis, ouais, alors, on en parle, on parle, ouais, on parle. Vous savez, on était arrivé à un point, frères et sœurs, pour trouver Dieu, on voulait prendre la Bible, le Coran et la Bhagavad Gita. Pour ceux qui ne savent pas, la Bhagavad Gita, c'est le livre hindouiste. On voulait mélanger les trois. Hein, et puis hop, j'étais par terre et on voulait faire notre religion. Ça allait être notre truc à nous. Hein. Mais heureusement que Dieu a arrêté ça. Parce que sinon, ça aurait été explosif comme mélange. Hein. Et il m'a dit, Jess, Dieu, pour trouver Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Mais quand il a dit ça, quand il a dit ce mot, frère et soeur, quand il a dit ce nom, je le redis encore, Jésus, il y a quelque chose au fond de moi qui s'est mis comme ça. Non, non, non. Dans ma tête, j'ai entendu ces pensées. Non, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est le christianisme. Jésus, c'est la religion. Jésus, c'est le Vatican. Jésus, c'est le pape. Jésus, c'est les croisades. Jésus, c'est les meurtres. Il y avait une voix au fond de moi qui, dès qu'on disait Jésus, waouh. Oui, frère et soeur, parce qu'on en parle tout à l'heure. Parce qu'il y avait au fond de moi des puissances qui étaient là. Et j'ai commencé à discuter avec Georges pendant des heures. Et chaque fois qu'il disait Jésus, moi je dis, j'en veux pas ton Jésus. Moi je veux Dieu, mais pas Jésus. Je veux Dieu, mais pas Jésus. Et à un moment donné, mon frère m'a dit, écoute Jess, on ne discute plus. Terminé. Maintenant, je fréquente une église à Grenoble, au bout des 400 couverts. Donc, il y a des pasteurs qui s'appellent Père Touchel. Et on fait une réunion pour la jeunesse. Tu veux venir samedi soir? Moi, je dis, bah, écoute, pour te faire plaisir. Ouais. J'ai vu mon frère. Hein. Il dit, pour te faire plaisir. Il dit, mais attention, il dit, si tu viens, tu t'assois au fond, et puis t'es. Parce qu'il savait que des fois, j'étais un peu explosif. Il t'en fait pas. Je ne fais pas scandale. Et j'arrive et je me mets au fond. Et ça commence, la réunion commence. Pardon, excusez-moi, j'apporte mon témoignage. Hein. Voilà, j'aurais pu faire un message théologique si vous vouliez, mais j'apporte mon témoignage.
Amen, amen.
Et je m'assois au fond et j'écoute. La première chose que je vois mon frère, Georges, champion de France militaire de cross-country, chanter des cantiques. Chez nous, frères et sœurs, on n'écoutait pas ce genre de musique-là. Avant. Avant, on écoutait du La Priest, du ACDC, du Led Zeppelin, du hard rock. J'ai rien contre la musique. Je veux rassurer tout le monde, mais après, j'en apporterai un petit point de détail quand même dans mon témoignage. Du lourd, plus que du lourd, hein.
Métal,
très lourd.
Quoi,
hein. Métal, et je vois mon frère qui chante un peu les chants qu'on chantait là. Hein. Je dis, waouh! Et je le vois vrai, je vois qu'il chante vrai. Je dis, mais c'est passé quelque chose. Et après, je vois un trio qui se met en place, une jeune femme et puis deux gars. Quand je regarde cette jeune femme, je dis, mais je la connais. En réalité, je la connaissais pas du tout. Celle qui va devenir ma future épouse après.
Amen.
Mais je ne connaissais pas du tout. Mais écoutez comme, excusez-moi l'expression, hein, scotché, attiré. Bon, après, il y en a qui disent, ouais, elle était jolie. Je ne sais pas, c'est pas ça qui m'a scotché ou attiré. Hein, c'est que quelque chose. Bon, enfin, bon, je passe. Et après, il y avait un prédicateur qui a commencé à prêcher. Et le prédicateur a commencé à parler de la vie de Salomon. Il a dit que Salomon avait touché beaucoup de choses, avait ouvert beaucoup de portes, mais il n'a jamais été rassasié. Il n'a jamais trouvé, hein, vanité des vanités, tout n'est que vanité poursuite du vent. Jusqu'à la fin du livre d'Ecclésias, il dit, la seule chose qui compte, c'est que tu rencontres Dieu et que tu le suives. J'ai écouté ça, je dis, waouh. Et puis, J'avais l'impression que le gars, il parlait qu'à moi. Il y avait environ 300 personnes. J'avais l'impression que le gars, il me parlait qu'à moi. Alors moi, j'étais un peu gêné, j'étais là. Et on m'a dit, maintenant, on va prier, fermer les yeux. Et comme j'avais dit à mon frère que j'allais faire les choses tranquilles, j'ai fermé les yeux et le frère a commencé à prier. Et frères et sœurs, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Parce que Dieu est le Dieu des miracles.
Amen.
Dieu est le Dieu des miracles.
Amen. Et
je lis souvent ça. J'étais dans le péché, j'étais lié par des puissances de ténèbres, j'étais complètement à l'ouest, mais en tout cas, dans mon cœur, j'étais vrai.
Amen.
Et Dieu se rend compte sur le terrain de la vérité. Pourquoi? Parce que je voulais la vérité avec un grand B.
Amen.
J'étais vrai. Et ce que je faisais était vrai. Amen. J'ai fermé les yeux. Et le frère a dit, ouvre ton cœur.
Amen.
J'ai ouvert mon cœur.
Amen.
J'étais à l'écoute. Et cet homme a commencé à prier. Il a fait une prière de foi. Et quand il priait, je me suis revu dans la voiture. J'ai revu la voiture décoller. J'ai revu la voiture rentrer dans le camion. J'ai revu les tonneaux. Je me suis revu dehors en train de me dire Dieu existe. Je me suis revu après à l'hôpital avec Manolo. Tout ça en une fraction de seconde. J'ai vu tout ça. Comme un film. C'est un miracle. Je ne sais pas comment le dire. Et tout à coup, je me suis dit, oui, mais Dieu, c'est qui? C'est quoi? Et le frère, dans la prière, disait, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité.
Amen.
Nul ne vient à ton père.
Amen.
Amen.
Il est télépathe, le gars. Non, simplement le Saint-Esprit parlait au travers de lui à mon cœur.
Amen.
Et je prie, et j'ai prié tout à l'heure, et je prie encore que le Saint-Esprit te parle ce matin.
Amen, amen, amen.
Le Saint-Esprit te parle dans ton cœur.
Amen.
Et quand je suis sorti de là, je suis rentré chez moi, et là dans ma chambre, je me suis mis à genoux, toujours dans cette dimension de vérité et d'honnêteté. Je me suis mis à genoux, frère et soeur. Mon ami, je me suis mis à genoux. Tu m'aurais connu quand j'avais 18 et 19 ans. Me faire plier les genoux, c'était très difficile. Là, je me suis mis à genoux et je dis, Dieu, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Quand j'entends, je veux te connaître. Change ma vie. Et je me suis couché. Le lendemain, je me suis levé, il y avait quelque chose qui était en moi qui n'était pas avant. Il y avait quelque chose qui était en une présence, je sentais la présence de Dieu dans ma vie.
Amen.
Je sentais la présence de Dieu dans ma vie. Il y avait quelque chose qui était en moi et je me dis, il faut que je retourne voir cet homme. C'était le samedi soir. Hein. Le dimanche matin, je vais voir la personne. Je dis, écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais dimanche, vous avez parlé de ça, ça, ça. Ça ne me plaît même pas. C'est bon, oui, peut-être, oui. Mais vous avez prié et j'ai ressenti ça. Je veux donner ma vie à Jésus. Et cet homme de Dieu a dit, écoute, jeune homme, c'est facile. Si maintenant tu demandes pardon pour tes péchés,
amen.
Et si tu donnes ta vie à Jésus, amen. Jésus vient et te nettoie et te lave.
Amen.
Je dis oui. J'étais vrai et sincère. Et j'ai fait une prière toute simple.
Amen.
Et quand j'ai dit Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te donne ma vie, j'ai senti comme une puissance d'amour, une puissance de paix.
Amen.
Je me suis dit, mais c'est ça que je cherchais depuis toujours. C'est ça que je cherchais depuis toujours. Et j'étais transformé. Parce que Jésus-Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Amen.
Jésus-Christ est venu pour annoncer le salut, la guérison, la délivrance, la bénédiction, la paix, l'amour, la joie. Parce que tu as été fait pour ça.
Amen.
Par Dieu. Il faut que tu viennes avec lui, devant lui, avec un cœur repentant. Amen. Aujourd'hui, ça continue, frères et sœurs. Jésus est le même, il n'a pas changé.
Amen.
Il n'a pas changé. Aujourd'hui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés.
Amen.
Ah, il n'y a plus de cœurs brisés aujourd'hui. Hein.
Amen.
Non, dans le monde dans lequel on vit, avec tous les tungstènes, avec tous les Valium, avec tous les barbituriques, ah, il n'y a plus de cœurs brisés aujourd'hui. Hein. Non, ça n'existe plus aujourd'hui. L'homme, grâce à la science, hein, a réussi à guérir tous les cœurs. Hein. Vous savez combien il y a de taux de suicide en France? Et vous savez dans quelle tranche d'âge il est le plus élevé? C'est entre 15 et 25 ans. Ça devrait être là où la vie devrait exploser, mais c'est là que la vie explose. Frères et sœurs. Hein? Il n'y a plus de cœur. Écoutez, je vais le lire, parce que là, j'ai plus le temps de le marquer. Dans un magazine de la psychologie et des neurosciences, un magazine scientifique qui s'appelle Cerveau et Psycho. Non, mais ça va être intéressant, vous allez voir. Donc c'est un article écrit par un scientifique et dit ça. La France, on a vite fait la France, hein.
Oui.
La France se situe en tête des pays européens pour les dépenses de produits pharmaceutiques. Notre pays se caractérise par une consommation importante d'antihypertenseurs, de vasodilatateurs, d'antibiotiques, de antipsychotiques ou neurolytiques, de antidépresseurs, les tranquillisants ou anxiolytiques et les somnifères hypnotiques. Cela ne s'explique pas par des différences réglementaires, mais plutôt par les comportements des prescripteurs et des patients à l'égard des médicaments pour lesquels les Français ont une forte appétence. C'est-à-dire, ils sont liés. Ils croient aux médicaments. Ça, c'est la France, frère et soeur. Laissez-moi vous parler de ma maman. Je dirais que j'en ai rien à faire. Bon, peut-être. Mais je vais vous montrer ce que Dieu a fait dans sa vie. Ma mère, à l'âge de 30 et quelques années, a suivi mon père, qui était travailleur immigré en France. Elle est venue suivre son mari. Son mari a trouvé du travail en France, hein, et pendant 3 mois, il a travaillé, et à bout de 3 mois, sa femme l'a suivi avec ses 2 enfants, avec mon frère aîné Antoine, 3 ans, et moi, notre serviteur, 2 ans. Ma mère est arrivée en France, elle ne parlait pas un seul mot français. Pas un seul mot français. Elle est arrivée, donc avec 2 enfants de bas âge, et en plus, elle attendait le 3e. Hein, elle est arrivée dans un quartier, on l'a mis dans une maison d'usine. Vous savez, à cette époque-là, les usines avaient des petites maisons à côté. Donc, mon père et ma mère habitaient là-bas. Hein, entourée de personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle ne parlait pas un seul mot français. Elle est sombrée dans une dépression. Mais quand je parle de dépression, frères et sœurs, je ne parle pas d'un petit nuage qui est là parce que, tiens, aujourd'hui, il fait gris. Hein. Non, son cœur a été brisé. Son cœur a été brisé. Elle est tombée en dépression. Elle a été suivie par tous les médecins. Valium 5, Valium 10, Valium 15, Trangsten, toute la panoplie. J'ai vu ma mère, des fois, se lever le matin, prenait ses médicaments. Elle était un zombie. Elle était comme une mort vivante. Elle bougeait comme ça. Et je l'ai vu, des fois, s'enfermer dans sa chambre et pleurer pendant des semaines. Et un jour, mon père est allé voir un des plus grands spécialistes de Grenoble, qui était un chirurgien dans une clinique. La clinique mutualiste, pour ceux qui connaissent, à Grenoble. Moi, je dis des noms comme ça, moi, pour montrer la vérité des choses. Hein, c'est le docteur Ferrieux. Et le docteur Ferrieux lui a dit, écoutez, M. Pénat, si vous voulez que votre femme guérisse, il y a toute sa chose à faire. Ouais, vous faites les valises et vous rentrez chez vous. Mais il n'a pas dit ça dans le thème, dit, casse-toi, va plus loin. Non, c'est parce qu'il a dit, il n'y a que comme ça que votre femme, parce que vous l'avez déracinée. Vous l'avez déracinée. Et mon père a dit, mais c'est pas possible, monsieur Ferrieux. Je travaille là, mes enfants sont scolarisés, je ne peux pas partir. Et j'ai vu ma mère comme ça pendant des années et des années. J'ai grandi comme ça, voyant ma mère comme ça. Et un jour, Dieu touche le cœur de Georges, mon frère, transforme sa vie. Dieu touche mon cœur, il transforme ma vie. Moi qui étais un alcoolique, un drogué, j'ai été changé par la puissance du Saint-Esprit.
Amen.
Ma mère dit, waouh. Waouh. Et un jour, dans sa cuisine, alors qu'elle faisait les pommes de terre, elle arrête tout, elle se met à genoux. Mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu se rencontre sur le terrain de la vérité.
Amen.
Là, elle a crié à Dieu. Elle se met à genoux, Seigneur, elle a dit, Dieu, Dieu. C'était une Espagnole qui avait, j'allais dire, une culture religieuse, mais qui ne connaissait pas Dieu. Mais elle avait une culture religieuse. Elle a commencé à crier à Dieu, dit, guéris-moi. Et là, elle a été transpercée par la puissance du Saint-Esprit. Elle a été remplie du Saint-Esprit.
Amen.
Et la dépression est partie.
Amen.
La dépression est partie. 3 mois après, elle se faisait baptiser à l'église.
Amen. Amen.
C'est pas que des mots, là, c'est des actes. Jésus, l'évangile, c'est des actes. C'est des actes.
Amen.
Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Frères et sœurs, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Combien de cœurs brisés, combien d'enfants, de jeunes filles, de jeunes hommes grandissent hein, dans des foyers où le père passe sa mère, où la femme boit, et il y a l'infidélité, il y a le divorce, il y a la restructuration, on se remarie. Et je ne dis pas ça pour jeter la pierre à personne, mais comment voulez-vous que le cœur ne soit pas brisé? C'est pas possible. Combien d'enfants? J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les colonies de vacances. Pour enfants. Et vous commencez à parler de l'amour du Père, vous auriez vu les enfants pleurer. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Frères et sœurs, les cœurs brisés, il n'y en a qu'un seul qui peut les guérir. C'est Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui peut les guérir. C'est Jésus. Il y Il n'y a qu'un seul qui peut guérir ton cœur, vous savez, c'est Jésus. Alors, on peut jouer les durs, hein. Ça, je savais faire. Quoi ? Besoin ? Oh, les gars, pas de problème. Hein. Puis après, quand tu es chez toi tout seul, là, sur ton lit, là, tu commences à réfléchir et tu commences à dire, mince, c'est ça la vie ? Il n'y a pas autre chose ? Ça sonne faux. J'en ai marre de mentir. J'en ai marre de porter un masque. Je sors dehors et je prends le masque. Tout va bien. Je rentre à la maison et pour casser ça, pour masquer ça, je bois, je fume, je me drogue. Parce que je veux masquer ça. Parce que si j'ai pas ça, ça me revient à la surface et ça fait mal. Cœur brisé. Cœur brisé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Pour qu'on comprenne ça. C'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, c'est une histoire. Ça se passe en Amérique. Et c'est un homme qui conduisait une Ford. Vous savez, les grosses Ford américaines, là, les machins. Il était sur une autoroute. Et on entendait la voiture. Bon. Le gars, il sort, Puis il ouvre le capot, la fumée. Puis le gars, il regarde. Et à un moment donné, il y a une autre Ford qui arrive. Hop, qui le double, et puis il se garde devant. Et puis de cette haute Ford, il y a un vieux monsieur qui sort avec son chapeau, son costume, un monsieur un peu âgé. Il dit bonjour monsieur, un américain, monsieur. Et il dit bonjour monsieur, vous avez un problème ? Ouais, écoute, le chapeau, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Voilà. Alors, il dit excusez-moi. Il retourne dans sa voiture, le vieux monsieur, et le gars, il commence à nommer tous les noms d'oiseaux qui existent sur la terre, après tous les noms de mammifères qui se passent, et le vieil homme ressort. Il va voir le monsieur, il dit, écoutez monsieur, je vois que vous avez vraiment un problème. Je peux vous aider. Il dit, écoutez, ne me cassez pas les pieds, j'y arrive pas. Laissez-moi faire. Bon, vas-y, si tu veux. Vas-y, fais. Alors le gars, il arrête son chapeau, il arrête sa veste. Hein, et puis il regarde, il dit, s'il vous plaît, vous n'avez pas un petit ton de discrucifiant ? Il dit, ouais, tenez, allez-y, s'il vous plaît, mettez la clé. Faites tourner le moteur. Le gars, bon. Tout, paf, ça redémarre. Waouh, il sonne, qu'est-ce que vous avez fait ? Attendez, avant de vous expliquer ce que j'ai fait, je vais vous me présenter. Je m'appelle Monsieur Ford. Cette voiture, c'est moi qui l'ai construite. Ce moteur, c'est moi qui l'ai dessiné dans ma tête et je l'ai fait de mes mains. C'est moi qui ai inventé cette voiture. Je suis Monsieur Ford. Je savais où il était. Le problème, il est là. Et frère et soeur, je voudrais te dire, mon ami, que celui qui t'a construit, c'est Dieu.
Amen.
Et le problème, il s'est
Amen.
Il s'est mis.
Amen.
Mais est-ce que tu es capable aujourd'hui d'ouvrir le capot et au lieu de dire de lui dire voilà, mets les mains dans le moteur, mets les mains dans le cœur, parce qu'il est le seul qui peut guérir les cœurs brisés. Le monde, lui, va te donner des médicaments pour t'assommer, hein, mais une fois que les vapeurs des médicaments partent, le problème est de nouveau là. Et il va te donner encore des médicaments pour que tu puisses... Mais une fois que ça part, le problème est là. Il n'y en a qu'un seul qui peut mettre les mains dans le moteur, dans ton cœur, c'est Jésus.
Amen.
C'est Jésus, il est venu pour ça. Le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Amen.
Il m'a envoyé pour guérir, pour rendre la vue aux aveugles. Frère et soeur, c'est écrit, pour rendre la vue aux aveugles. Mon père, travailleur immigré, je l'ai déjà dit, hein, a travaillé à Fontaine, dans la fonderie de Malingerin. Voilà, comme ça, au moins, vous savez que je donne des noms, vous pouvez après voir si c'est vrai ou pas vrai, si jamais ça existe ou pas. Hein. Maintenant, c'est Schneider. Malingerin a été racheté par Schneider. Mais à l'époque, c'était la fonderie. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà travaillé dans une fonderie ? Une fonderie, c'est un endroit où on fond le métal. Alors qu'il y a du feu, il y a du bruit, il y a des presses. Pendant 8 heures. Et lui, il avait une masse et il cassait de la fonte. Il commençait à 6h30 du matin et il terminait à 19h. À cette époque-là, vous savez, les 35 heures. Voilà. Et donc, à un moment donné, il s'est aperçu qu'il n'entendait plus de l'oreille gauche. Et puis, il commençait à entendre moins de l'oreille droite. Et il est allé voir le médecin du travail. Le médecin du travail a dit, Monsieur Pina, vous êtes en train de devenir totalement sourd. Il faudrait que vous arrêtiez de travailler. Il dit, mais je ne peux pas, il dit, si. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée. Vous pouvez prendre votre pré-retraite. Et même, il y a une prime que Malingerin serait prêt à vous donner, si vous prenez votre prenez-la, avant de tomber totalement sourd. Et mon père, à l'âge de 50 et des poussières, était sourd. dans ma famille, en Espagne, il y avait un médecin. Et le médecin, mon oncle, m'a dit, écoutez bien les enfants, quand vous allez parler à votre père, vous prenez que vous mettiez devant lui et que vous articuliez bien. Parce qu'il va chercher à lire sur les lèvres, parce qu'il n'entend plus. Bon. Jésus rentre dans ma vie. Il me libère. Il transforme ma vie. Il transforme la vie de Georges. Il y a dimanche matin au soleil pour aller au culte. Et avant de franchir la porte de la maison, la porte de la chambre de mes parents s'ouvre. Mon père sort. Il se met en face, devant la porte. Il dit, vous allez où? Alors moi, je suis là devant mon père, je dis, aïe, aïe, aïe. Et là, tranquillement, en expliquant bien, je dis, papa, tu sais maintenant, on va prendre un culte à Dieu, parce que nous croyons que Dieu est bon. Et je m'attendais à tout. Je m'attendais à Vaurien, à machin, à Bilu. Et voici que mon père me dit, attends, je vais avec toi.
Amen.
Bon. Et une petite voix dans la chambre, ma mère qui dit, moi aussi.
Amen.
Bon. Hein? Faut vous dire que pendant une semaine avec mon frère Georges, on avait prié pour la guérison de papy.
Amen.
On priait tous les soirs pour la guérison de mon père.
Amen, amen.
Et là, ce dimanche matin, j'y vais avec vous. Amen. Et nous voici en route. Au 400 couverts, il est arrivé au 400 couverts. Et au 400 couverts, il y avait un prédicateur de feu, encore plus que moi. Et il disait, il parlait sur la guérison des vies. Et il disait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Jésus faisait hier, autrefois, aujourd'hui, il peut le faire encore. Il peut guérir les malades.
Amen.
Et il a fait un appel, s'il y a des malades au milieu de vous, approchez-vous. Et mon père était sourd. Mon père était sourd. Mais moi, j'étais là à sa droite et mon frère Georges à sa gauche. Et on a fait, hop là. Et voici mon père qui est retrouvé devant. Comme ça. Alors, le prédicateur est arrivé, il dit, vous voulez que je prie pour vous? Et lui, il ne comprenait pas. Il lui a imposé les mains, comme c'est écrit dans la Bible. Marc, chapitre 16. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Amen.
Donc, ma soeur, mon ami, c'est pas que des beaux.
Amen.
Je te parle de ce que Dieu a fait dans ma famille. Et dès qu'il a été touché par la puissance de Dieu, on est rentré à la maison. Et quand, pendant la route, avec Jean, on se regardait en disant, je crois qu'il a été guéri. Et vous, la crédibilité, là. Je crois qu'il a fait quelque chose. Mon père disait, il n'y a pas un mot. Trois dans ses bottes. Vous l'avancez. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, je dis, attends. Quand il arrive à la maison, mon père est allé dans sa chambre. Il a ouvert une petite commode. Il a pris, vous savez, ces vieilles montres de grand-père Rousse. Hein, ces montres avec, qui sont rondes comme ça avec un pied. Il a pris, il l'a remonté, il l'a mis dans son oreille, il l'a mis dans l'autre, il s'est tourné vers nous, il a dit, j'entends tic-tac.
Amen.
Il voulait naître instantanément.
Amen. 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 Amen.
Sa vie a été transformée à 57 ans.
Amen.
Il connaissait, il savait que Dieu existait parce qu'il avait été éduqué, on parlait de Dieu, mais il n'avait jamais été touché par Dieu. Et mon frère, ma soeur, mon ami, tu es peut-être là ce matin, tu sais que Dieu existe, on t'a parlé de lui, le catéchisme, le machin, le bidule, le truc. Mais savoir que Dieu existe est une chose, mais être touché par Dieu est une autre.
Amen.
Et ce matin, je crois que Dieu veut te toucher dans ton cœur.
Amen.
Il est venu pour guérir. Pour guérir. Il est venu pour délivrer les opprimés.
Amen.
Pour envoyer libre les captifs.
Amen.
Libre les captifs.
Amen.
Un jour, Jésus se promène vers Gadara, et alors qu'il est là assis tranquillement à l'ombre d'un arbre, vient devant lui un homme à moitié nu, avec des chaînes, avec tout lacéré. Il vient avec des cris d'animaux, et il vient devant Jésus, se met à genoux devant lui en disant, Jésus, 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 délivre-moi. Et Jésus dit, tais-toi, qui es-tu? Il dit, je suis Légion. Et Jésus va chasser les démons de cet homme.
Amen.
Là, on est en plein Moyen-Âge, là. Croyez pas aux démons. Croyez pas au diable. Si vous ne le croyez pas, frères et sœurs, je vous dirai, on vit au 21e siècle, mais allez voir tous les jeux vidéo aujourd'hui que beaucoup de jeunes jouent. Et vous allez voir s'il n'y a pas des démons. Ils diront, mais ça, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Un jour, alors que j'étais... j'ai donné ma vie à Jésus, baptisé. Passé un temps, je ne faisais que les cauchemars la nuit. Je voyais une forme noire qui venait me visiter la nuit, qui m'ouvrait la bouche, qui déversait en moi quelque chose de noir, qui m'étouffait. Je me réveillais chaque fois en sursaut et en transpiration. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à un moment donné, j'allais parler à un ami, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Clément Korzumbo, Guéré Korzumbo, qui était mon responsable de jeunes à cette époque-là. Et je lui ai expliqué ça, il m'a dit, Josué, tu as besoin de délivrance.
Amen. Ben,
j'ai dit, bon. Il dit, ouais. Il dit, qu'est-ce que t'as touché? Ben, je lui ai dit, ben, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et demande à Dieu qu'il te révèle ces choses.
Amen.
Et le soir, je suis rentré à la maison. Et avant de dormir, j'ai dit, Seigneur, je veux une révélation. Je veux que tu me montres qu'est-ce que c'est. Comment c'est rentré. Pourquoi c'est rentré. Et je me couche, je m'endors. Et là, pareil, cet homme en noir vient. Et il avait dans ses mains une cagette. Et dans cette cagette, il y avait plein de morceaux de disques. Vous savez, à cette époque-là, ce n'était pas des CD, c'était des 33 tours, vinyle, noir, cassé. Et il vient vers moi, et il me dit, ouvre la bouche, et il déversait ça là-dedans. Et là, j'ai vite compris. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai vite compris. J'étais dans un petit placard, j'avais des petites valises, où j'avais tout rangé, je m'avais passé dedans, et j'avais là toute une collection de disques de hard rock. J'ai rien contre la musique, je le dis encore. Mes frères et sœurs, des fois, j'en tire un au hasard. J'en tire un au hasard. Et le disque que je tire, il s'appelle Judas Priest, le prêtre Judas, en français. Et on voit sur la pochette, on voit un démon assis sur le bord d'un groupe avec de la fumée qui sort et des démons qui sortent. Je me dis, putain, j'écoutais ça, moi. Et j'ai très vite compris que ce que j'écoutais rentrait dans mon âme. Et ces choses-là, elles sont venues s'installer en moi et elles venaient me troubler. Et quand j'en ai parlé à Clément, on a prié ensemble, et comme la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. On a prié, il a prié, il a pris une position d'autorité, et les puissants des ténèbres sont partis.
Amen.
Et il est totalement libéré.
Amen.
Totalement libéré. Frères et sœurs, il est venu pour libérer les captifs. Il dira, non, ça c'est la foutaise. Oui, combien d'hommes et de femmes, peut-être ici au milieu, je ne sais pas, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui disent, reconnaissent, c'est plus fort que moi. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas, ils ne peuvent plus se passer de la pornographie. Parce qu'ils ont touché une fois, touché deux fois, touché trois fois, et plus ils touchaient, ils ne se rendaient même pas compte qu'en réalité, ils ouvraient les portes de leur âme. Et les puissances spirituelles, occultes, méchantes, viennent et traversent, ils rentrent. Et ces hommes ont dit, c'est plus fort que moi, je ne peux plus m'en passer. Je veux m'arrêter, mais je ne peux pas. Combien d'hommes et de femmes ont commencé à battre leur femme ou battre leur mari? C'est plus fort, une pulsion m'a pris. Vous suivez les actualités comme moi? Vous avez écouté cette personne qui a tué je ne sais pas combien d'enfants? Il dit, c'était plus fort que moi. Une pulsion me prenait. Une pulsion? Une pulsion? Jésus est venu justement pour te libérer de ça. Jésus est venu pour te libérer. Tu ne peux pas. Des fois, je discute avec des personnes, des jeunes et des moins jeunes. Hein. José, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Tout va bien. Et puis il arrive un moment où j'ai l'impression que tout va exploser. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont là, à l'intérieur de moi, qui travaillent ma vie. Qui me délivrera? Je dis, écoute, mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour délivrer.
Amen.
Il a écrasé la tête du serpent à la croix. Il a brisé les chaînes des captifs. C'est ça l'évangile, frère et soeur. C'est ça l'évangile, frère et soeur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il veut te sauver et changer ta vie. L'évangile, c'est il veut guérir ton cœur brisé. L'évangile, c'est il veut te guérir. L'évangile, il veut te libérer. L'évangile, il veut te restaurer. L'évangile, c'est Jésus qui veut te rendre heureux. Jésus qui veut te donner un véritable sens à ta vie. Ce matin, est-ce que tu le veux?
Amen.
La Bible dit, Jésus dira ceci. Je suis venu pour annoncer un jour de grâce. Un jour de grâce. Et aujourd'hui, c'est le jour de la grâce.
Amen.
Aujourd'hui, on va prier. D'accord? Je veux prier pour vous. Je vous ai apporté mon témoignage. Mais je sais qu'il y a ici au milieu de nous des personnes qui pourraient aussi témoigner de ça.
Amen. Amen.
Je ne suis pas, j'allais dire, une petite goutte comme ça. Je sais que Dieu est capable de faire beaucoup de choses.
Amen.
Dieu est capable de sauver, de délivrer, de guérir. Dieu est capable de faire ça. Le diable a été vaincu à la croix.
Amen.
Par la résurrection, Jésus a pris les clés de la vie. C'est lui qui tient les clés.
Amen.
Jésus est vainqueur.
Amen.
Mais mon frère, ma soeur, mon ami,
amen.
Il y a une chose qui ne changera jamais. C'est ton cœur.
Amen.
Il y a l'émetteur, c'est Dieu.
Amen.
Et le récepteur, c'est ton cœur.
Amen.
Et si tu veux avoir la bonne réception, il faut que tu mettes ton cœur au diapason de Dieu, c'est d'aller qu'ils te tiennent dans la vérité.
Amen.
Qu'ils te tiennent dans la vérité. Et c'est pour ça que je vais vous demander, frères et sœurs, un instant de fermer les yeux.
Amen.
Pour se respecter les uns les autres, peut-être. Mais je voudrais quand même qu'on ait un moment de vérité. Alors j'ai conscience que peut-être ce que j'ai dit des fois a pu troubler, ou peut-être ça n'a aucun sens, mais je voudrais un instant que nous nous mettions devant Dieu, que nous fermions les yeux un moment, et que nous ouvrons notre cœur vers Dieu. Je ne sais pas si tout le monde est sauvé ici, mais s'il y a quelqu'un ici qui a besoin de Jésus comme sauveur, je voudrais vous donner l'occasion de le faire ce matin. Je ne voudrais pas que vous sortiez de ce lieu sans que vous ayez reçu Jésus dans votre cœur. Parce qu'il est question de votre éternité aussi. Alors, je voudrais vous aider. Je voudrais faire une prière pour vous. Et je voudrais que vous puissiez répéter cette prière avec moi. Quand on parle de prière, des fois, on a l'impression que ça va être une litanie. Non, prier, ça veut dire parler avec Dieu, avec son cœur. Prier veut dire parler avec Dieu, avec son cœur. Et je voudrais que tu répètes cette prière avec moi, si tu as besoin de Jésus ce matin, comme sauveur. Et de dire simplement ceci, tout simplement, Seigneur Jésus, répète-le, si tu as besoin de cela, Seigneur Jésus, ce matin, je viens tel que je suis, en vérité. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te donne ma vie. Change ma vie. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière avec ton cœur, ce sont les mots que Dieu entend. Il est venu pour ça. Jésus lui-même dit, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Si tu as fait cette prière, mon frère, tendant que nous les yeux fermés ici un instant, je te demanderai simplement de lever ta main vers le ciel. Parce que maintenant, moi, je veux prier avec toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur, ça se sert entre toi et Dieu. C'est comme si tu lèves une main vers Dieu en disant, Seigneur, moi, n'aie pas honte. Il est mort, lui, pour toi. Si tu as fait cette prière avec ton cœur ce matin, lève ta main que je puisse prier pour toi. Oui, plusieurs mains se lèvent. Et peut-être tu prends conscience qu'il y a un combat qui est en train de se faire. Tu as l'impression que ta main pèse des tonnes. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas te perdre. Mais en levant ta main, il t'a perdu. Et Jésus t'a sauvé. Seigneur, je te prie pour toutes ces mains qui sont levées ici au milieu de nous. Ces mains qui sont levées, Seigneur, ce n'est pas devant des hommes, c'est devant toi. Devant toi, Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je te prie pour eux maintenant. Je te prie que tu leur communiques ton amour. Seigneur mon Dieu, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Qu'ils ne soient plus... Que ton salut touche leur cœur. Soyez sauvés au nom de Jésus. Recevez le salut par la foi. Recevez le salut par la foi. Alléluia. Jésus est venu pour guérir les malades. Il y a ici des personnes qui ont des maux de tête. Mais quand je parle des maux de tête, ce n'est pas des petits maux de tête. C'est des maux de tête qui te font mal et même tu as peur maintenant. Parce que tu sais que lorsque ça vient, c'est des choses terribles. Et tu ressens des fois, ça va commencer à venir et tu rentres dans une peur parce que ça va être là, ça va faire mal. C'est des maux qui te prennent au niveau du front et puis au niveau des yeux. Si tu as ça ce matin, je te demanderai mon frère et ma soeur là, de te lever de ta place un instant. Je veux prier pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Hein. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Mais si jamais ça correspond à quelque chose pour toi ce matin, ces maux de tête qui sont là, qui t'angoissent, le Seigneur Jésus veut poser ses mains maintenant pour te guérir. Dans le nom de Jésus. 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 Il y a ici une personne qui a des problèmes au niveau des articulations, au niveau des poignets. Si c'est ton cas, lève-toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte, lève-toi. Le Seigneur va te guérir parce que tu fais un acte de foi. Restons dans la présence du Seigneur à l'instant. Alléluia. Jésus, tu es grand, tu es merveilleux. Il y a ici une personne ici qui a un problème au niveau des poumons. Restez debout, s'il vous plaît, parce que je vais prier avec vous. C'est mieux que vous pouvez rester debout un instant. Parce que je veux prier pour vous pour ça. Mais je voudrais que le Seigneur agisse vraiment. Il y a ici quelqu'un qui a des problèmes avec un poumon. Lorsque tu respires, tu sens comme une piqûre qui est là. Et ça te fait peur parce que tu as dans ta famille des personnes qui ont vécu ça. Et tu sais. Et là, tu as peur. Si c'est ton cas, lève-toi un instant. N'aie pas peur, lève-toi. On va prier pour toi. Pour mettre les poumons comme des pics qui te prennent. Alléluia. Alléluia. Approchez-vous, frères et sœurs. Vous qui êtes, qui vous êtes levés, approchez-vous ici. Je vais prier avec vous. Approchez-vous, collez-vous. Tendons nos mains vers nos bien-aimés. Tendons nos mains vers nos bien-aimés. Ils sont venus parce qu'ils veulent que le Seigneur les touche. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour guérir. Et si tu as la foi, tu vas guérir. Parce que Jésus le fait par la foi. Alléluia. Alors je vais prier avec vous, comme la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On ne va pas prendre 150 ans, on ne va pas, j'allais dire, faire trembler ou quoi que ce soit. Simplement, mon frère, ma soeur, lorsque je vais imposer les mains, je vais prier avec toi, crois-le. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. D'accord? Simplement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri, mon frère. Quel que soit le mal, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, ma sœur, quel que soit le mal, maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, ma sœur, quel que soit le mal, maintenant, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, ma sœur, quel que soit le mal que tu souffres maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Que ce mal disparaisse et que la guérison s'installe dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. D'abord, un instant encore, les yeux fermés, je conclue avec ça. Pendant que je priais ici, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur très fortement. Et je voudrais vraiment que nous puissions garder les yeux fermés pour mettre personne à l'aise. Il y a ici plusieurs personnes. En tout cas, une certaine. Il y a une souffrance dans ton cœur. Une souffrance dans ton cœur. Parce que tu as été battu. Et méprisé. Par quelqu'un qui était très cher. Par quelqu'un qui était très cher. Et je voudrais te dire de la part du Seigneur ce matin. Jésus le sait, Jésus l'a vu, et Jésus l'a prié. Alors, c'est pas que tu ressentes quoi que ce soit, que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu mettes ta foi en action. Que tu le sentes ou que tu ne le sens pas, crois-le. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ton cas, il va falloir un instant que tu prennes une position et que tu lui donnes le pardon et que tu pardonnes à ceux qui t'ont fait souffrir. Tu m'entends bien, mon frère, ma soeur? Si tu le fais, tu te places au terrain de la vérité. Et si tu es sur le terrain de la vérité, la puissance de Dieu vient et te guérit. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, je te demande de faire cette prière avec moi. Tout simplement. En disant, Père, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Et je te dis merci, Seigneur, pour la guérison de mon cœur. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Amen.
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 Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Que laisse la place au pasteur pour la partager.
Amen. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?